On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous sommes assemblés devant toi, Seigneur. On est assemblés devant toi, notre Créateur. C'est toi qui nous as conçus. Tu nous as connus, Seigneur, nous dis ta parole avant même que nous naissions, Seigneur. Nos jours, notre destinée était là devant toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos luttes, tu connais nos joies, tu connais nos combats, Seigneur. Père, je veux te demander ce matin de venir nous rencontrer par ta parole et de venir, Seigneur, nous redonner la foi si nous avons perdu foi en toi. Nous redonner la foi si, parce que nous ne croyons plus en nous-mêmes, nous n'avançons plus au lieu de se tourner vers toi, Seigneur, et de croire en toi. Notre Créateur, celui qui nous façonne. Père, je veux te demander de venir ce matin nous donner du courage. Du courage pour ne pas abandonner la course, Seigneur. Parce qu'on est tenté souvent de se relâcher, de s'asseoir, de s'arrêter, Seigneur. Seigneur Jésus, mon modèle, c'est toi. Et lorsque je regarde à toi, parfois mon cœur peut être triste et lourd parce que tu es si parfait, si bien, Seigneur. Mais m'appuyant sur ta grâce, Seigneur, y mettant tout mon cœur et mes énergies, je veux croire que tu vas poursuivre cette œuvre en moi, Seigneur. Et je te prie par ton esprit, de venir nous donner la force, le courage et la foi pour croire chacun d'entre nous ce matin. Viens, Seigneur, relever celui qui a le cœur découragé. Découragé parce que tout le monde autour de lui, autour d'elle, lui disent, par leurs attitudes, par leurs regards, qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. Découragé parce qu'il se lève trop souvent, regardant dans le miroir de son cœur et de sa vie et de ses actions et de tout ce qu'il a pu construire et détruire dans sa vie, ne crois pas que tu peux faire la différence, Seigneur. Ne crois plus que tu peux faire la différence, Seigneur. Viens, Seigneur, et remplis-nous de foi ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Il y a deux semaines, dans mon texte, c'était marqué la semaine dernière, mais on va dire il y a deux semaines, d'accord? Il y a deux semaines, je vous ai lancé un défi. Le défi que je vous ai lancé pour 2014, et ça ressemble encore à des bonnes résolutions du nouvel an, tout ça. Mais il y a deux semaines, je vous ai lancé un défi un petit peu plus osé que simplement vous dire, bon, ça serait quoi vos bonnes résolutions cette année? Non, je vous ai dit, pourquoi ne pas vous tourner vers les gens autour de vous? Conjoint, époux, épouse, vos enfants, s'ils sont en âge de commencer à réaliser que vous êtes peut-être pas la personne parfaite qu'ils croyaient dans leur petite enfance. Ce semi-dieu qui, chaque fois qu'il parle, dit toujours la vérité, mais ils ont découvert que vous êtes un être imparfait avec des luttes, des péchés, des combats. Des amis, des proches, et pourquoi pas votre boss. Allez voir ces gens-là puis leur poser la question suivante. Pourrais-tu me dire deux domaines dans ma vie sur lesquels je pourrais travailler et pour qu'à la fin de l'année 2014, tu me dises, sais-tu quoi, tu ressembles davantage à Jésus-Christ. Je t'ai vu grandir en 2014 et oui, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être pas ça que ton boss va te dire, là. Peut-être qu'avec ton patron, tu peux le tweaker autrement, tu peux le tourner un petit peu différemment pour la question. Et j'étais vraiment encouragé parce que plusieurs ont relevé le défi. Je sais pas, il y a plus de 10 personnes, 20 personnes autour de moi qui m'ont accroché et qui m'ont dit oui, je l'ai fait, j'en ai parlé à des gens, tout ça, je suis encore en train de le faire, j'attends des réponses. Ça a produit des discussions intéressantes. Plusieurs ont eu le courage d'aller en parler à des collègues de travail ou à votre supérieur au travail. Plusieurs l'ont fait. Et c'est vraiment intéressant les réactions que ça produit. Je vous avais dit, il y a des gens qui vont être stimulés par ça, par cet acte d'humilité-là, qui vont dire, waouh, c'est spécial ce que tu me demandes. Plusieurs d'entre vous, ça a été ça la réaction que vous avez reçue. Puis là, les gens disent, ben pense-y donc, pour moi aussi, ça serait le fun. Puis là, ça rouvre des portes pour discuter, des fois même pouvoir parler de l'Évangile. Et vraiment, je suis reconnaissant que vous ayez eu ce courage-là de relever le défi et continuez à me donner du feedback, à m'envoyer des petits courriels, des messages quand vous dites « Oui, Yannick, ça m'a touché, j'ai relevé le défi. » Moi, ça m'encourage, puis je peux vous le partager, mais plusieurs l'ont fait. Et donc, ce qu'on veut faire ensemble ce matin, c'est dire « Bon, mais OK, j'ai ces choses-là, je mets ça dans la prière, puis qu'est-ce que je fais avec ça? » Maintenant, si vous n'avez pas encore bougé, si vous étiez absent, tout ça, écoutez, l'année est encore jeune, d'accord? On est le 20 janvier. Il y a encore du temps pour que Dieu brasse vos vies en 2014. Alors, c'est encore le temps d'aller trouver des réponses à ça, puis partir avec ce qu'on va voir ensemble ce matin et avancer. Maintenant, avant de parler de stratégie, de moyens pratiques pour grandir, puis essayer de rendre tout ça concret, j'avais à cœur de vous apporter une illustration, une image qui me semble est super importante. Et puis honnêtement, qui manque souvent lorsque les gens veulent comme prendre des bonnes résolutions pour changer. Et c'est vraiment une illustration que j'ai pour vous. Je vous ai apporté quelque chose ce matin. Et je vais déplacer ça ici. Je vous ai apporté quelque chose que mon père m'a donné, d'accord? C'est ça que j'avais peur qu'il arrive. Alors, ce que vous avez ici, c'est une statue. C'est une statue que mon père m'a donnée. C'est une œuvre inachevée, admettons-le, d'un extraordinaire sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli, Gilles-Jacques Cloutier. Et je dis extraordinaire sculpteur parce que moi, j'ai vu des œuvres achevées de cet homme-là qui est totalement méconnu. Si vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver dans quelques références. Vous ne trouverez pas ses œuvres. Drôle de monsieur. Je suis allé le visiter. Je suis allé jaser avec lui, prendre un café. C'est un monsieur un petit peu obscur. Sa spécialité, pour ceux qui connaissent la sculpture, là, il va dans les loupes d'arbres. Les loupes, c'est les nœuds énormes qu'il y a parfois dans des arbres. Et c'est cette section-là qu'il prend pour faire toutes ses sculptures. C'est fou comme travail, d'accord? Si vous connaissez la sculpture, vous comprenez, il faut suivre les nerveux. C'est vraiment compliqué. Et ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Mais cette sculpture-là, il l'a donnée à mon père. Parce que cette sculpture-là, il l'a abandonnée. Alors, cette œuvre-là ne sera jamais terminée. Lorsqu'on la regarde, on voit le potentiel du sculpteur. On voit que cet homme-là, c'est un homme de talent. On peut imaginer un peu ce qu'elle serait devenue, mais elle ne sera jamais terminée. En fait, il l'a donné à mon père, puis il a dit, « Celle-là, je la laisse faire. Regarde, prends-la, mets-la dehors à la pluie, au soleil. Elle va fendre, elle va prendre la couleur, puis ça va lui donner de la gueule. » Et vous savez quoi? Certains d'entre vous, et parfois chacun d'entre nous dans nos vies, on se sent exactement comme ça. Comme une œuvre qui a été commencée et qui a été abandonnée. Une œuvre de transformation pour devenir quelqu'un de beau à la ressemblance de Jésus-Christ selon Dieu. Puis on a l'impression que l'œuvre s'est arrêtée là. On a l'impression que l'artiste qui a commencé cette œuvre, où il nous a brassé les premiers coups, les premiers coups de ciseaux ont fait tellement mal. Puis là, tranquillement, on a vu le potentiel commencer à apparaître. Puis tranquillement, pour toutes sortes de raisons, on en est venu à conclure que l'artiste a fait exactement ce que ce sculpteur-là, Jacques Cloutier, a fait avec cette œuvre-là. Et certains d'entre vous, vous êtes à cet endroit-là, où vous dites, j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a abandonné, parce que je ne vois pas l'œuvre qu'il est en train de faire en moi. Et ce matin, alors qu'on va parler de relever des défis, de prendre des défis concrets, d'être pratique, d'être concret avec ça, voici ce qu'on a besoin de se rappeler avant de se lancer dans ça. Celui qui a commencé cette œuvre-là en vous ne vous a pas abandonné. Celui qui a commencé cette œuvre-là en vous, ce n'est pas un sculpteur qui est qu'un homme. C'est Dieu, votre Créateur, qui s'est engagé à vous transformer à l'image parfaite de Jésus-Christ. La semaine dernière, je vous ai lu un passage, c'est-à-dire il y a deux semaines, il y a deux semaines dans Philippiens. Je veux juste vous rappeler ce passage-là. Parce qu'on a besoin de commencer à cet endroit-là si on veut entreprendre quelque chose. Dans Philippiens 1, verset 6, vous pouvez regarder à l'avant, voici ce qu'on lit. C'est l'apôtre Paul qui connaissait bien le cœur humain qui dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » L'espoir de Paul n'était pas dans l'être humain. Paul n'était pas engagé dans un programme d'auto-transformation. L'espoir de Paul, la conviction de Paul reposait sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre sauveur. Lorsqu'on avance dans la vie chrétienne, il y a des choses dans la vie qui nous confrontent à nous-mêmes, nos proches nous confrontent avec nous-mêmes, on fait des gaffes, des fois on est stupide, on fait des niaiseries, puis on se bute à nous-mêmes. Puis on peut être tenté de croire que ça s'en ira nulle part, cette affaire-là, parce qu'on se regarde puis on se dit, j'ai pas le guts, j'ai pas le courage de bûcher encore une fois, de me relever encore une fois. Ce qu'on doit se rappeler, c'est que si nous sommes chrétiens, nous le sommes par grâce. Tout ce que vous êtes est une œuvre de grâce. C'est une œuvre divine en votre faveur. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, je vous ramène au début à votre salut, au moment où vous avez cru en Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, voici ce qu'on lit. C'est encore une fois l'apôtre Paul qui parle et il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Votre destinée, si vous êtes en Jésus-Christ, ce n'est pas ceci. Votre destinée, si vous êtes en Jésus-Christ, c'est d'être transformé à l'image de Christ. Et si cette transformation-là reposait sur nos épaules, on ne se rendrait même pas là, je vous l'assure. Mais notre transformation repose sur une promesse, la promesse de celui qui ne renie jamais sa parole, celui qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ, pour qu'on soit sauvés et pour qu'on soit transformés. Alors rappelez-vous ceci en 2014, chaque fois que vous allez vivre des moments difficiles, chaque fois que vous allez entreprendre un effort pour grandir, sauvé par grâce, transformé par grâce. Amen. Sauvé par grâce, transformé par grâce. Et ce matin, si vous êtes découragé, partez simplement avec cette pensée-là. Et après, le Seigneur va vous conduire pas à pas à avancer avec lui pour être transformé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que notre transformation demande absolument aucun effort de notre part et qu'on n'a pas à y mettre du nôtre pour avancer? Est-ce que ça veut dire qu'on reste là assis sur notre steak à attendre une intervention divine pour tout d'un coup me réveiller un matin puis me regarder dans le miroir puis être une de ces statues grecques extraordinaires, finies? Non, pas du tout. J'ai à y mettre du mien, j'ai à mettre des efforts. Alors, on va aller ensemble dans 1 Timothée 4 ce matin. Lorsqu'on arrive dans la lettre de Paul à Timothée au chapitre 4, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est dans un contexte où Paul dit à Timothée, tu dois corriger des faux enseignements. Et c'est vraiment pertinent qu'on se tourne vers ce passage-là parce que à ce moment-là, dans l'Église, il y a des gens qui disaient justement, la vie chrétienne, c'est énormément d'efforts. C'est beaucoup de règles à observer. C'est beaucoup de restrictions à s'imposer afin de pouvoir plaire à Dieu. Et c'est ça que ces gens-là enseignaient. Par exemple, ils prenaient la nourriture. Et il disait, en fait, la nourriture est là pour nous aider à mesurer jusqu'à quel point on est prêt à renoncer. C'est à ça que ça sert la bouffe. Ça sert à survivre et à se tester, à renoncer. L'amour entre un homme et une femme, l'intimité, la sexualité, ce sont des tests que Dieu a mis devant nous. Ce n'est pas pour qu'on jouisse de ça, ce n'est pas pour qu'un homme et une femme se marient et soient heureux ensemble. Si Dieu les a mis là, c'est pour nous tester, pour voir si on est capable d'avoir la maîtrise de soi. Vous voyez le genre de mentalité que ça donne, de mindset, de pensée? Tout devient une opportunité d'être un petit peu plus rigide pour prétendument ressembler à Dieu. Et souvent, c'est l'image qu'on a de la foi. C'est l'image qu'on a de la spiritualité, c'est l'image qu'on a du christianisme, un ensemble de règles à observer. Et Paul vient ici et dit non, vous n'avez absolument rien compris de la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu est bon. Dieu ne crée pas le mal. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il y a sur la terre a été créé par Dieu, c'est bon. Et c'est là pour notre bonheur. C'est là pour que nous en jouissions. Avec cette seule nuance, tout ça a été créé pour que j'en jouisse, que j'en profite, que je savoure toutes ces choses-là et que je le fasse en pensant au Créateur qui me les a données. Que je le fasse en disant merci, plutôt qu'en m'appropriant toutes ces choses-là, comme si elles étaient là seulement pour moi. Dieu est en train de dire, je t'ai créé, j'ai mis devant toi tant de choses dont tu peux jouir, seulement voici, comme dit l'Ecclésiaste, rappelle-toi ton Créateur, celui qui te les a données, et cherche à le glorifier avec toutes ces choses dont tu peux profiter, avec toutes ces choses dont tu peux jouir. Et Paul est en train de dire, dans le fond, nous-mêmes, comme êtres humains, on fait partie de cette création. Et c'est peut-être la première chose que tu dois réaliser si tu es dans une quête, si tu es dans une démarche, dans une recherche spirituelle. Cette idée qu'une quête spirituelle, ce n'est pas simplement connecté avec l'univers, c'est connecté avec une personne, avec un Créateur. Et si toi, tu es un être qui pense, qui vit, qui respire et qui a une personnalité, il y a un être personnel derrière tout l'univers. Il n'y a pas simplement une force. Et donc, grandir spirituellement, ce n'est pas simplement connecter avec l'énergie de l'univers. C'est connecter avec un Créateur. Et chaque fois que je me tourne vers la bonne bouffe, vers mon épouse, puis que je la prends dans mes bras, puis que je dis combien je l'aime, puis je dis « Waouh, c'est génial le mariage! » Je le fais en disant « Waouh, t'es génial, Dieu! » Parce que c'est toi qui as pensé ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que Paul est en train d'amener ici. Il dit « Voici, on a été créés dans un monde extraordinaire pour en jouir, et c'est merveilleux. Et ceci doit se faire en le faisant sous le regard du Créateur, pour lui dire merci, pour le glorifier, pour lui ressembler, tout simplement. Tout simplement. Et Paul apporte un terme un petit peu plus loin pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien avance dans la vie sans règles, sans effort? Au contraire, dans 1 Timothée 4, 8, et c'est là qu'on va venir vers ces éléments plus pratiques pour avancer, pour grandir. Là, dans 1 Timothée 4, 8, la version seconde, d'accord? Ça, c'est celle que je lis depuis des années. Voici comment Paul le dit. Il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Et je veux m'arrêter sur le mot piété ici, qui n'est pas exactement rendu dans la version qu'on a lu ce matin. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, d'accord? Mais le mot piété, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est très familier. Souvent, ça a une connotation extrêmement négative. Les gens pieux, ça ressemble à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Des gens qui ont un paquet de règles, c'est ça, des gens pieux. Maintenant, le mot piété pour nous a perdu son sens. Le mot grec qui est derrière là, dans la langue originale, c'est le mot « eusebian », d'accord? Et voici ce qu'il veut dire, tout simplement, d'accord? Il veut dire être émerveillé par Dieu, avoir un profond respect pour lui, vivre pour lui plaire, pour lui ressembler. C'est ça que ça veut dire. Être émerveillé par Dieu, avoir un profond respect pour lui, vivre pour lui plaire et lui ressembler. La piété, c'est ça. C'est avoir découvert que je ne vis pas dans cet univers pour moi-même et que je ne vis pas dans l'univers, dans un univers d'un être impersonnel, mais que l'air que je respire, c'est l'air que Dieu a créé. Le sang dans mes veines, l'énergie qu'il y a dans mon corps, les bonnes choses qu'il y a devant moi, c'est Dieu qui les a données. Et toutes ces choses-là m'amènent à me tourner vers Dieu et dire « Wow! T'es incroyablement bon! » Et là, je me tourne vers lui, je découvre combien il est beau, combien il est grand, combien il est merveilleux, et je désire lui ressembler. Je découvre que je ne suis pas un accident de la nature, mais j'ai été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et toute ma vie, ce que je fais, c'est que je dis « Wow, t'es merveilleux, je veux te ressembler, je veux être comme toi. » En anglais, le terme utilisé le plus souvent pour traduire le mot « piété » et « Eusebian », c'est « godliness ». Godliness. Ça sonne comme godlikeness. À la ressemblance de Dieu. Parce qu'il y a tout ça dans ce mot-là. Il y a cet émerveillement devant Dieu, puis en même temps ce désir de dire, t'es tellement extraordinaire que je te prends comme modèle. Je veux être comme toi maintenant à mon tour. Je veux te ressembler. Et c'est ça qu'Alfred Kuhn a essayé de traduire dans le verset, si vous regardez dans vos notes ou tout simplement ici en avant. C'est ça qu'il a essayé de traduire au verset 8. « Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme, entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Rester attaché à Dieu, ton cœur est attaché à lui et tu as une conduite, tu vis d'une manière qui corresponde à cette foi-là. » C'est toute cette idée-là de piété où je demeure toujours émerveillé par Dieu puis je dis, t'es mon modèle, je veux être comme toi. Je veux te plaire, je veux te ressembler. Lorsque je vous ai posé la question puis je vous ai encouragé à aller voir des gens autour de vous en posant cette question, quels sont les deux domaines dans ma vie où je devrais chercher à grandir pour devenir comme Jésus-Christ? Mais c'est ça que j'avais en tête, c'était la piété. Parce que lorsque je suis émerveillé par la personne de Jésus-Christ, je réalise qu'il y a des beaux modèles dans la vie. Il y a plein de gens. Si vous venez me piquer mon iPhone, là, vous verriez la première image qui apparaît, c'est Nelson Mandela. Waouh, un beau modèle. Plein de domaines vraiment intéressants dans ce qu'il a fait. Mais lorsque je découvre la personne de Jésus-Christ, je réalise que c'est juste qu'il n'y a pas de photo de Jésus, vous comprenez, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mon iPhone. Mais tu réalises qu'il n'y a pas de modèle comparable à Jésus. Il n'y a personne qui est comparable à Jésus. Et lorsque tu découvres qui est Jésus-Christ, tu découvres que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Alors lorsque je veux marcher dans la piété, lorsque je suis émerveillé par Dieu, je veux de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. C'est ça que je veux faire. En 2014, être plus pieux, m'exercer à la piété, ça va être pour chacun d'entre nous, de toutes sortes de manières, de chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et de s'y exercer. Alors voici le genre de réponse que je pourrais avoir si je disais, OK, mais comment je pourrais chercher à grandir de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ? Bien, voici comment était Jésus. Jésus obéissait parfaitement à son Père céleste. Grandir à l'image de Christ, ce serait grandir dans mon obéissance. Il y avait une espèce de chimie entre Jésus et son Père qui faisait qu'à tout moment, il était connecté puis il était en train d'obéir au Père. Il était dans la volonté du Père. De ça découle quelque chose d'autre d'extraordinaire. Jésus avait une foi, il était rempli de foi parce qu'il savait qui était son Père. Il marchait avec lui, il savait qui était en train de servir. Et donc le cœur de Jésus était rempli de foi. Constamment, vous ne trouvez pas, à part au moment où il sait justement où son Père le conduit à Gethsémané, à part à ce moment-là, vous ne trouvez pas Jésus dans la crainte. Parce qu'il sait qui est son Père. Je veux grandir à la ressemblance de Jésus. Je veux que mon cœur soit rempli de foi afin de chasser la peur. Mais la foi dans mon Père céleste. Jésus déborde d'amour pour les gens. Et peut-être que c'est ça que les gens vous ont dit. Tu sais, Yannick, t'es, ou qui que ce soit ici, tu es une personne qui est tellement centrée sur un paquet d'objectifs. Ça pourrait marcher pour moi. Tu as besoin de grandir et de déborder d'amour pour les gens. On aimerait que ce soit spontané. On aimerait voir ça comme Jésus qui avançait dans sa journée avec un paquet d'affaires à faire, mais survenait quelqu'un avec un besoin, puis les disciples disaient « Non, 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 il est trop fatigué. » Mais son cœur était toujours porté comme ça, aller vers les gens. Son agenda était constamment bousculé parce que son agenda, c'était les gens. Oh, le cœur sur la main. généreux avec son temps, recherche constamment la plénitude de l'Esprit de Dieu. Peut-être que c'est ça dans ta vie qu'il manque. Passion pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'était la passion de Jésus. Quand Jésus voyait des gens, il voyait leurs besoins, et il voyait derrière ça leurs besoins spirituels. Constamment, ce qu'il souhaitait de tout son cœur, c'était les conduire dans le royaume de son Père. Constamment. Connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Vous allez me dire, c'était la parole de Dieu, je suis d'accord. Mais Jésus était là et la parole était toujours disponible. Et peut-être que c'est ça qu'on t'a dit. Tu es quelqu'un de bien, on aimerait ça voir sortir de toi la parole de Dieu dans ton foyer pour conduire la maison, pour enseigner les enfants. Rempli de douceur, un homme de prière, rapide à pardonner, accueillant pour l'étranger, pour l'inconnu, au lieu de rester toujours dans ta zone de confort. Maîtrise de soi, c'est difficile de voir Jésus, juste de l'imaginer, pacté, fini, bedonnant dans des gros acceptables qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ça servait à glorifier Dieu et ça se prenait avec sagesse, avec modération. Prends soin du malheureux, s'investit dans la vie d'autres personnes pour leur apprendre à marcher avec Dieu. Patient, sage, bon conseiller. Alors voyez-vous, il y a toutes sortes de manières. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit. Le défi, moi, que je vous lance, c'est de mettre ça dans la prière, de vous arrêter sur deux éléments. Deux éléments simplement. Et vous savez, il y a toutes sortes de livres, vous pouvez trouver des bons bouquins avec des conseils, des stratégies pratiques, concrètes. Tout à l'heure, je vais donner comme 6 conseils pratiques pour aller à quelque part avec ça, puis que ça ne reste pas des vœux pieux, justement. D'accord? Il y a plein de bons bouquins là-dessus, remplis de sagesse, avec toutes sortes de conseils. Et il y a plein de gens qui, en début d'année, prennent des résolutions pour changer. La différence fondamentale entre ce que je vous apporte ici ce matin et ce que les Écritures nous apportent, c'est que notre poursuite, notre objectif, c'est de devenir à la ressemblance de Jésus-Christ. La différence fondamentale avec ce que je vous apporte ici, c'est que tout ceci ne repose pas sur mes efforts premièrement, ça repose sur la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui œuvre en notre faveur. Et donc, ce que je veux faire, et ça c'est super important, vous relevez le défi ce matin. L'objectif, et je vous invite à le formuler comme ça, je veux ressembler davantage à Jésus-Christ. Oh! Ça peut être n'importe quoi, ça peut être super pratique, ça peut être en payant mes comptes à tous les mois. Imaginez-vous Jésus avec des créanciers qui courent après. Vous allez me dire, il y avait un compte de banque infini. Non, il vivait humblement, très humblement, très humblement. D'accord, ça peut être n'importe quoi. En 2014, je veux ressembler davantage à Jésus-Christ. Un, deux points. Parce que c'est notre objectif. On ne fait pas ça parce qu'on est engagé dans un programme d'auto-amélioration pour qu'on puisse se regarder dans le miroir à la fin de l'année et dire « Wow, man, t'es en train de devenir quelqu'un. » On veut ressembler à Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Maintenant, tout ça prend des efforts. Ça demande de faire des efforts. Ça demande de travailler. Parce que notre nature pécheresse fait qu'on n'est pas disposé à la piété naturellement. On n'est pas disposé à toutes ces bonnes choses-là. Dans le passage, dans 1 Timothée 4, 8, voici ce qu'on lit, je relis le verset. « Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à la foi. » Encore une fois, dans la langue originale, le mot grec qui est là pour « exerce-toi ». Il y en a qui savent c'est quoi qui est là? Il y en a qui savent? Gymnasio. Alors le mot qui est là, c'est gymnasio. Comment ça sonne dans vos oreilles? Gymnase, gymnastique, entraînement. C'est exactement ça qui est là. Et chaque fois qu'on lit dans ce verset « exerce-toi », « entraîne-toi », « mets des efforts », c'est ce terme-là qui est là. Gymnasio, qui veut dire tout simplement mettre des efforts, s'entraîner. Et l'image qui nous est donnée ici, c'est l'image de ces athlètes grecs, d'accord? Qui étaient là et qui persévéraient dans l'effort. Et vous avez vu des images de ces gars-là avec leur super speedo, d'accord? Qui sont en train de s'entraîner, qui sont en train de bûcher extrêmement fort. C'est vraiment le chess bro spirituel, d'accord? C'est ça que Paul est en train de dire ici. Embarque sur ton bench press spirituel, man, puis fais tes pompes. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire pour pouvoir grandir à l'image de Jésus-Christ. Oui, ça prend une certaine discipline. Et donc, je vais m'entraîner à ça. Je vais mettre des efforts, je vais m'engager à le faire. Et vous savez quoi? C'est possible de changer. Le défi, souvent, lorsqu'on veut changer, c'est qu'on se voit comme ça. Puis il y a certaines affaires qu'on veut changer, on dit, bon, ben, on va attaquer la face parce qu'il n'est pas beau. Mais on a essayé 26 fois de le faire, puis on a toujours eu peur d'arracher le nez au complet. Fait qu'on démissionne. C'est possible de changer. Et je voudrais l'illustrer dans ma propre vie ce matin, d'accord? Je l'ai raconté à plein de personnes, mais pour moi, ça a été vraiment une révélation qui est venue plus tard. Moi, je vous fais une petite révélation ce matin. Je suis un nerd, d'accord? Si vous ne le saviez pas, je suis un nerd. Ça marche? J'ai toujours été un nerd, je suis fier de l'être. C'est les nerds qui règnent sur la Terre. C'est eux qui dirigent la Terre, d'accord? Fait que je m'assume totalement. Mais, il y a des conséquences qui viennent avec ça. Puis je ne voulais pas que mes enfants vivent la même chose. Alors, mes enfants vieillissaient, puis je les voyais, tout ça à l'école, éducation physique. J'ai dit non, je leur laisserai pas le même héritage que le mien. Puis j'avançais en âge aussi, fait que je commençais à développer des nouvelles formes. Alors il y a cinq ans, ça, écoutez, pendant 2-3 ans, j'ai mijoté ça, puis là j'ai dit, il faut que je réussisse à mettre du sport dans ma vie. Maintenant, les seules choses qui m'ont intéressé, c'est toujours des sports individuels. Je suis pas un gars de sport d'équipe. J'aime travailler en équipe. Au sport, c'est comme, c'est moi. Faut que j'aie quelque chose à abattre. Alors, vous savez, je fais du karaté. Mais voilà, 5 ans environ, bientôt 5 ans, je m'en vais m'inscrire dans une école de karaté. C'était génial. J'allais faire ça avec mes enfants. On allait tous y aller ensemble. Ça allait être super, tout ça. Je reviens à la maison. Je m'assois avec Esther. Puis je dis, Esther, j'ai aucune idée. Comment je vais faire pour me rendre là 2 fois par semaine, 1 heure? Je ne voyais pas comment ça allait rentrer dans mon horaire. Je savais déjà ça allait être quand. Mais je me connaissais tellement appliqué au travail, tellement zélé, tellement d'heures de travail, tellement occupé. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour rentrer ça dans ma vie? J'avais pas la foi que ça allait se faire, vous comprenez? Juste 2 heures par semaine, je le fais pour mes enfants. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de fois dans les 2 premières années où j'ai passé à un cheveu d'abandonner. Je manque un samedi matin, je décide d'en manquer un deuxième. Je décide d'en manquer un troisième parce que j'ai quelque chose, j'ai un rendez-vous, peu importe. Puis là, oh, je me rappelle même plus de mes kata, ça va faire mal quand je vais retourner. Je sais pas combien de fois. Et là, c'était vraiment le privilège de m'être engagé pour d'autres personnes aussi. De dire, je peux pas laisser tomber mes enfants. Les enfants me disaient, papa, quand est-ce qu'on retourne? Parce que chaque fois qu'on retourne, c'est comme, t'es vieux, papa, tu mémorises mal les kata, faut recommencer. Ils me disaient pas ça, mais vous comprenez? On a persévéré, OK? Pour faire une histoire courte, on a persévéré. Et ce que tu te rends compte après 2 ans où tu es en train de faire ça, c'est que 2 heures par semaine, c'est juste comme assez pour te faire mal. Tu sais, t'es comme pas assez pour vraiment développer 2 heures d'entraînement par semaine. Tu réalises juste que t'es pas en forme. C'est à peu près ça que ça donne, d'accord? Je vais pas vous décourager, mais on a commencé par là. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais c'est pas assez. Moi, je veux que ça fasse une différence dans ma vie. Puis là, on décide d'augmenter, d'ajouter d'autres choses. Puis le résultat final de ça, c'est que je m'entraîne en moyenne. Puis je dis pas ça là pour me vanter, pour dire, simplement vous montrer que ça se fait. Je m'entraîne en moyenne 6 heures, 6 heures et demie par semaine. De karaté, d'entraînement, de musculation. Je fais ça avec mon Bastien, tout ça. Puis on s'entraîne comme des fous. Puis on aime ça. Puis quand il y a des moments, comme dans la période des fêtes, où on perd notre rythme, tous les deux, on a hâte de retomber là-dedans, de se remettre là-dessus, de recommencer à faire ça. Alors, à un certain moment donné, dans le processus, j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai dit, attends un petit peu, là. C'est correct, j'ai encore l'air d'un nerd, ça marche, je m'assume. Mais si je jasais avec des gens, puis je leur disais qu'est-ce que je fais dans ma vie, les gens diraient, mais non, mais tu fais du sport, mon gars, t'es actif, ça n'a pas de bon sens, j'aimerais ça faire juste la moitié de ce que tu fais. Et à un certain moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, mais je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. J'ai changé. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes mis à la course à pied dans les 2 dernières années. Puis vous avez fait des exploits. Je regarde les résultats, je me dis, boy, ils vont me traîner, ça se peut pas. Laissez-moi frapper quelqu'un, c'est correct, là, mais pas courir. Vous avez changé. Vous êtes quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Et ça se fait. Et ça se fait en prenant simplement une petite décision de dire, OK, on va commencer là. Puis à un certain moment donné, oups, tu as soif pour plus. Tu veux avancer davantage. Tu en veux un petit peu plus. Tu commences à prendre goût à ça. Ça se fait en 2014 de changer l'année jeune. Et ça demande des efforts de le faire, c'est vrai. Alors, je vous donne 6 conseils pratiques. Soyons pratiques un peu. 6 conseils pratiques. D'accord? Vous les avez sur vos feuilles. On les a faites, ces feuilles-là, pour que vous puissiez les remplir, les glisser dans votre Bible, y retourner régulièrement, d'accord, en 2014. 6 conseils pratiques. Évidemment, on l'a dit, consulte Dieu et tes proches. Tu vas dans la prière, tu commences à consulter Dieu et tes proches pour chercher sur quoi tu veux travailler. D'accord? La dernière chose à faire, conseil pratique, la dernière chose à faire quand tu veux changer, c'est juste de dire, OK, en 2014, je vais changer. Non, tu t'en vas nulle part. Petite bouchée à la fois, concret. Deuxième élément, c'est écris-le ce que tu veux travailler. Alors, de grâce, écris pas « je veux changer ». D'accord? En 2014, je veux être en forme. Non, ça s'en va nulle part. Alors, écris ce que tu veux travailler concrètement. Ça se rentre dans une phrase, cette affaire-là. Écris-le. Ensuite de ça, donne-toi des stratégies simples et concrètes. D'accord? Je suis vraiment là, c'est concret. Comment est-ce que je fais ça? À la maison, ce que je voudrais faire, c'est que la parole de Dieu soit plus fréquente dans mon cœur. Ben, pour qu'elle soit dans ton cœur, il faut qu'elle soit dans ta tête. Pour qu'elle soit dans ta tête, il faut qu'elle soit devant tes yeux. Pour qu'elle soit devant tes yeux, il faut qu'elle soit dans ton temps. Pour qu'il y ait des moments où tu vas aller ouvrir la parole, lire la parole, mémoriser la parole, puis après ça, elle va être là dans ta bouche quand tu en auras besoin. Alors, j'ai des stratégies très, très pratiques et concrètes pour arriver jusque-là. Quel que soit le domaine, d'accord? En 2014, je veux mettre de l'ordre dans mes finances. OK, ça c'est beau. On commence où? Bien, je vais commencer par écrire mes dépenses. OK, je vais écrire mes dépenses tous les soirs quand je rentre à la maison. J'écris toutes mes dépenses de la journée. Fais juste ça, tu vas voir. Tu vas commencer à faire du ménage dans tes finances, ce ne sera pas long. Parce que tu vas être gêné de ce que tu écris sur ta feuille. Quatrième, trouve-toi des partners qui vont t'encourager. C'est pas suffisant d'aller vers les gens et de dire en 2014, je veux travailler sur ça. Il y en a qui te regardent et qui disent ouais. Parle-leur-en même pas à ceux-là. Tu les surprendras à la fin de l'année, d'accord? Trouve-toi des gens qui vont t'encourager. Des gens qui croient dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie et qui vont t'encourager pour leur être redevable, pour en jaser ensemble, pour aller prendre un café et parler de ça ensemble. 5e conseil pratique, lis et prie sur ces objectifs-là à tous les jours. Quand je veux changer quelque chose, il faut que j'y revienne. Et c'est souvent ça l'erreur qu'on fait, c'est qu'on le met là, puis après ça, on le relit 2 mois plus tard. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on vous a mis cette petite feuille-là. Mettez-la dans votre Bible si vous dites, « Oui, mais Yannick, je rouvre ma Bible le dimanche matin. » OK, je ne sais pas c'est quoi que tu fais. Tu prends ta pâte à dents, attache-la après ton tube de pâte à dents. Tu prends ta voiture, colle-la sur ton horn, sur ton klaxon de ta voiture. Fais quelque chose pour aller lire et prier sur tes objectifs à tous les jours. Et dernier conseil pratique, ajuste en cours de route tes stratégies. D'accord? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est d'abandonner lorsqu'on se rend compte que les stratégies ne fonctionnent pas. Alors, fais juste les ajuster en cours de route. Ça, c'est juste des conseils pratiques, d'accord? Suis ces 6 conseils-là. Prie, cherche la face de Dieu, demande conseil à des gens, ils vont t'aider à cerner des choses. Sois très limité dans ce que tu prends. Deux éléments pour commencer. Prends le temps de les écrire. Si ça ne s'écrit pas dans une phrase, réécris jusqu'à temps que ça rentre dans une phrase. Donne-toi des stratégies simples et pratiques. Trouve-toi des gens qui veulent t'encourager, qui ont à cœur de te voir progresser et rends-toi redevable à eux pour que vous puissiez en jaser ensemble, qu'ils puissent prier pour toi. Lis et prie sur ces objectifs-là tous les jours cette année. Tous les jours, régulièrement, mets-les partout dans ta maison. Et puis en cours de route, ajuste tes stratégies. D'accord? Ça, c'est des conseils pratiques pour pouvoir avancer. Et la beauté dans tout ça. Là, je reviens à la parole de Dieu. La beauté dans tout ça. C'est qu'on ne se lance pas dans des projets comme ceux-là en s'appuyant sur nos propres forces. Je vous ramène à l'Évangile, d'accord? Parce que c'est ce que Paul fait ici dans le passage. Allez avec moi dans les Écritures et regardez ce que Paul est en train de dire au verset 10. Paul dit, « En effet, si nous nous donnons tant de mal et si nous livrons un si rude combat, » et il parle du combat de la piété, du combat de la foi, d'accord? Si nous ne nous laissons rebuter ni par la peine, ni par les outrages ou les souffrances, » Paul donne la raison. c'est parce que nous avons mis notre espérance, non pas en nous-mêmes, non pas en nos propres capacités, non pas dans les hommes autour de nous qui feraient la différence, mais notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur et le bienfaiteur de tous les hommes, avant tout de ceux qui se confient en Dieu. En 2014, si j'ai espoir de changer, et si tu as raison d'avoir espoir de changer, c'est bien sûr parce que tu vas mettre des efforts. Mais ta confiance et ton espérance, ce n'est pas en toi-même que tu dois la placer. C'est en ce Dieu qui est venu te sauver par grâce et qui est en train de te transformer par grâce. Parce que lui s'est engagé à te transformer et à terminer l'œuvre qu'il a commencée. À ne pas l'abandonner. Et c'est là qu'est toute notre espérance. Et si ce matin, depuis des années, tu es en train d'avancer puis tu essaies de te changer toi-même, peut-être que tu entends l'Évangile ce matin pour la première fois. Peut-être que tu entends l'Évangile de Jésus-Christ pour la première fois. C'est en Dieu que nous plaçons notre foi comme chrétiens. Parce que nous croyons que c'est lui qui crée en nous un cœur pur. C'est lui qui nous donne un esprit bien disposé. Et nous mettons tous ces efforts comme Paul parce que nous savons que nous ne le faisons pas en vain. L'athlète olympique qui s'appuie sur lui-même et sur son coach pour réussir, c'est une situation bien triste, tout repose sur lui. Mais celui qui s'appuie sur Dieu pour s'exercer, pour s'entraîner, pour mettre ses efforts, c'est déjà que la victoire est assurée. Et Paul dit, c'est pour ça que j'ai le courage de continuer à travailler fort. Mais Paul va plus loin encore dans le passage. Paul va plus loin encore dans le passage parce qu'il nous dit qu'en faisant ça, nous allons pouvoir avoir un impact sur les gens autour de nous. Regardez le verset 12. Que personne ne méprise. Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. Frères et sœurs, vous êtes entourés de témoins qui vous regardent marcher et qui, pour avancer dans leur vie spirituelle, pour grandir, ont simplement besoin d'en voir un qui se lève. C'est peut-être tes enfants qui te regardent, c'est peut-être ton époux, c'est peut-être tes amis. C'est peut-être des collègues de travail qui ont besoin de te voir, toi, te lever et reprendre confiance en Dieu. T'engager, mettre tes efforts pour grandir à l'image de Christ. Et quel que soit ton âge, que tu aies 13 ans, 14 ans, 30 ans, 75 ans, il y a des gens qui vont pouvoir te prendre comme modèle. Et les gens aujourd'hui ont besoin d'inspiration. Tu vas devenir cette inspiration-là. Et comme tu le fais en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est vers Jésus-Christ que tu vas les conduire ensemble. J'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes et si vous commencez cette nouvelle année-là cynique, parce que vous dites, ouais, Yannick est en train de nous donner une version chrétienne des bonnes résolutions de début d'année. Que Dieu vous vienne en aide et qu'il vous fasse sortir de cet endroit de découragement où le diable vous a lié. En vous amenant à regarder simplement à vous-même. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous transformer, c'est parce que vous ne regardez qu'à vous-même. Et Dieu vous demande de détourner les regards de vous-même pour les fixer sur celui qui vous a sauvé. Parce que c'est lui qui s'engage envers vous. Et Paul va plus loin encore. Au verset 15, voici ce qu'il dit. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. En 2014, c'est possible de changer. Et vous savez quoi, si vous vous engagez, lorsqu'on va terminer l'année ensemble, on va prendre le temps de revenir sur ça. Ça, je m'y engage. Et vous savez quoi, on va rendre gloire à Dieu ensemble. Parce qu'on va célébrer les progrès que Dieu produit en nous. Être chrétien, c'est marcher dans l'humilité, et pourtant, on veut que nos progrès soient visibles aux yeux de tout le monde. Parce qu'ils glorifient notre Dieu. Et Paul termine avec une idée absolument extraordinaire. Ce passage-là, voici ce qu'il dit au verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Bien sûr, Timothée était un pasteur et il avait le privilège d'enseigner. Mais Paul dit à Timothée, « Tu es appelé à être un modèle pour tous les croyants parce que tous les croyants sont appelés à devenir des modèles pour des gens autour d'eux. Et vous êtes appelé à enseigner par votre style de vie, par votre croissance en Jésus-Christ et à enseigner en partageant la parole de Dieu et en annonçant l'Évangile. Vous savez quoi? Si ces jours-ci, en début de cette année 2014, vous reprenez foi en Dieu et vous engagez avec Dieu à devenir un peu plus à l'image de Jésus-Christ, certains d'entre vous, vous allez avoir le privilège à travers l'année 2014 de conduire des gens à Jésus-Christ à cause de cette décision-là. Parce que vous allez reprendre foi en Dieu, vous allez reprendre la course, vous allez revivre cette plénitude de l'Esprit où chaque jour je me lève, je regarde mes objectifs, puis je dis, Seigneur, je veux te ressembler aujourd'hui, je vais m'appuyer sur ta grâce. Et cette foi-là va être communicante. Elle va devenir contagieuse. Et il y a des gens qui vont se relever dans leur foi chrétienne, et d'autres vont être attirés à Jésus-Christ par cette décision-là. Alors, je vous encourage cette semaine dans vos petits groupes, cette semaine à continuer les questions, à ne pas vous relâcher, à reprendre foi en Dieu, parce que le Seigneur va poursuivre cette belle œuvre qu'il a commencée en vous. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que si nous sommes chrétiens, si nous te connaissons, c'est par grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, chaque fois que je vois les bons coups que je peux faire, je suis obligé de reconnaître que c'est ta grâce. Et chaque fois, Seigneur, que je tombe, je suis obligé de reconnaître que c'est ta grâce encore une fois qui va me relever. Parce que c'est par grâce que tu vas me purifier, créer en moi un cœur pur, restaurer en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacune des personnes ici ce matin qui ont pris cet engagement. Remplis de foi, ils ont relevé le défi, ils sont allés voir des collègues de travail, voir leur patron, sont allés voir des gens autour d'eux, puis ils ont dit, OK, Seigneur, je te prends au mot et je vais faire mon effort à moi. Je vais m'exercer à la piété, je vais m'exercer à être un peu plus comme Jésus-Christ cette année. Seigneur, chaque matin cette année, renouvelle en eux un esprit bien disposé. Remplis-les de ton esprit. Donne-leur, Seigneur, un esprit pratique, un esprit de sagesse, afin qu'ils soient concrets dans tout cela. Qu'ils s'exercent à la piété par la méditation de ta parole, par la prière, par toutes sortes de moyens concrets, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont découragés. Parce que les dernières années dans leur marche chrétienne ont été des années où ils se sont assis de plus en plus et ils en sont venus, Seigneur, à dire, « Mais où es-tu, Esprit de Dieu? Parce que je n'entends plus ta voix, Seigneur. » Oh, Seigneur, j'ai passé par là, moi aussi. J'ai passé par là, Seigneur. Je prie de venir les remplir de foi, de les conduire à la croix de Jésus-Christ, afin qu'ils se rappellent ton amour, Seigneur. Il se rappelle qui tu es, ô Dieu. Tu es celui qui ne se renie pas lui-même. Tu es celui qui fait lever chaque matin le soleil, qui nous donne cet oxygène qui remplit nos poumons. Tu es celui qui nous donne à manger, qui nous donne du travail, qui renouvelle nos énergies. Et tu es celui qui habite en nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Renouvelle leur foi. Chasse le cynisme, le découragement, Seigneur. Éloigne de leur oreille le diable qui leur dit « Oublie ça, pas toi, pas toi. » Et Seigneur, qu'ils entendent ce doux murmure que tu as fait entendre à Élie, Seigneur. Le murmure de ton amour et de ta grâce pour qu'ils se relèvent et croient en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous appuyons sur toi pour notre salut. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cette année, en 2014, nous voulons nous appuyer sur toi pour grandir, parce que c'est par grâce que nous sommes transformés. C'est en Jésus que je te prie. Amen.